Bien, notre invité, donc, je le disais juste avant la pause, c'est Michel Jamme, maire de Sigean. Alors, vous avez été élu lors de la dernière élection maire. Je crois que vous avez eu un passé de conseiller municipal, comme c'est souvent le cas.
Un mandat de conseiller dans l'opposition, oui.
Oui, dans l'opposition, précisons-le. Et alors depuis, donc, vous êtes maire de la commune de Sigean, mais depuis peu de temps, vous êtes également délégué à l'agglomération, au Grand Narbonne, à la GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Alors encore un truc technocratique, mais qui recouvre une réalité très, très concrète, Michel Jamme.
Voilà, c'est tout simple, même si l'appellation peut paraître un peu barbare, puisque la GEMAPI est définie par le Code de l'environnement. Donc elle regroupe quatre points essentiels. Le premier, c'est l'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin versant. Le deuxième point, c'est l'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, d'un canal ou d'un plan d'eau. Le troisième point, c'est la défense contre les inondations de mer. Et le quatrième point, c'est la protection et la restauration des sites ou d'écosystèmes aquatiques et la gestion de zones humides.
Par exemple, les lagunes, les étangs et tout ça,
voilà.
En ce qui nous concerne.
Voilà.
Alors, un bassin versant, Michel Jamme, essayons de définir un petit peu, c'est les fleuves qui coulent vers la mer sur une zone particulière.
Voilà. Absolument. Sur l'agglo, aujourd'hui, il y a deux gros bassins versants qui seraient le bassin versant des basses plaines et le bassin versant
de l'Aude
et le bassin versant de la mer et du Rieu. Voilà. Ouais. Pour schématiser,
c'est-à-dire la zone Portel, Sigean.
Pour rester simple. Ouais. Voilà. Et les Corbières qui ne sont pas dans l'agglo.
Oui.
Voilà, parce que les bassins versants n'ont pas la vertu de se coller exactement aux limites administratives des départements.
Voilà.
Ce qui n'est pas sans poser de temps en temps des questions et des négociations.
Plus qu'on est dans un climat capricieux en ce qui concerne les chutes de pluie, voilà. Bon. Et alors donc, cette GEMAPI, c'est une compétence qui est communautaire, qui appartient au Grand Narbonne.
Voilà. Jusqu'à présent, la gestion d'un cours d'eau était une compétence facultative et partagée. Ce qui fait que plusieurs intervenants étaient possibles, mais inconvénient, on arrivait à ne plus savoir qui devait faire quoi. Et ce qui a été la source de nombreux conflits. Depuis le 1er janvier, la compétence donc de la gestion des cours d'eau est une compétence obligatoire des communes. Et avec transfert immédiat donc aux EPCI, donc en ce qui nous concerne à l'agglo de Narbonne. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est une compétence obligatoire de l'agglo. C'est une compétence qui a été dite exclusive jusqu'à la fin d'année dernière et qui aujourd'hui l'est un peu moins parce que les départements peuvent, s'ils le souhaitent, peuvent participer. Par contre, bon, en ce qui nous concerne, les départements n'ont pas souhaité participer donc au fonctionnement des syndicats de bassin. Donc, que l'on appelle EPAGE aujourd'hui. Donc, c'est une compétence de l'agglo.
Et alors, on peut se poser la question pourquoi le président de l'agglo a souhaité déléguer cette responsabilité au maire de Sigean. Rappelons que Sigean, c'est sur le parcours, si je puis dire, de la Berre, qui joue des tours de temps en temps, le dernier datant de 2014.
Voilà, la dernière inondation date de novembre 2014, donc c'est-à-dire juste quelques mois après mon élection.
Voilà, ben vous avez été arrosé, si je puis dire.
Absolument, c'était le baptême du feu, hein, ou le baptême de l'eau. Je suis maire d'une commune donc qui a établi son plan communal de sauvegarde. Pour être honnête, je n'avais pas eu le temps de le lire dans son intégralité, mais quand on est confronté à ce genre de problème, ça va vite, quoi. On est vite formé sur le tas.
Oui. Et alors donc, vous avez cette expérience de l'inondation de 2014. Maintenant, vous avez un regard et des responsabilités pour lutter contre ces inondations. La prochaine crue, si je puis dire, de la Berre, comment sera-t-elle traitée pour éviter tous ces déboires?
Alors, c'est un point qui fait l'objet de nombreuses discussions et de nombreuses réclamations. C'est vrai que subir une inondation est un traumatisme pour les personnes qui sont inondées. Il faut rappeler que dans tout un quartier de ma commune, les gens peuvent mesurer 1,50 m, 1,80 m d'eau dans leur habitation. En 2014, il y a une digue qui protège 6 gens. digue depuis le Moyen-Âge. Et cette digue a été refaite en 2014. C'est-à-dire que la digue présentait quelques signes de faiblesse et il a été déterminé qu'il fallait faire quelque chose. Alors nous aurions tous souhaité, moi le premier, qu'on en profite pour rehausser la digue, c'est-à-dire construire une digue plus élevée que l'ancienne.
Ce qui n'a pas été le cas.
Ce qui n'a pas été le cas.
Et qui a prouvé combien ça aurait dû être nécessaire.
Également. Alors, ça n'a pas été le cas pour une raison simple, c'est que il a été estimé, bon, je n'étais pas maire à l'époque, hein, donc il a été estimé qu'il y avait urgence à consolider ou à refaire la digue existante. Il a été estimé qu'en cas d'inondation, elle risquait de rompre. Il y avait urgence. Et il faut savoir, par contre, que lorsqu'on veut rehausser une digue, cela doit rentrer dans le cadre d'un PAPI, donc, qui est un plan d'action et de prévention des inondations.
Voilà. Et là, PAPI a fait de la résistance.
Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on veut rehausser la digue, ou on est inscrit ou on n'est pas inscrit. Donc, en l'occurrence, il n'y avait pas d'inscription de la digue de Sigean pour une éventuelle rehausse. Et comme il y avait urgence, donc la digue a été refaite à l'identique. Là, on s'est évité un retard d'un certain nombre de mois, et la digue a été refaite à l'identique. D'où toute la polémique et toute l'incompréhension qui a pu...
Forcément.
Voilà, qui depuis règne. Alors, il faut savoir que suite à l'inondation et à toutes les problématiques qu'il y a eu, parce qu'il ne vous a pas échappé quand même que les relations étaient conflictuelles à ce moment-là avec le syndicat de la Bère et du Rieux, entre les Sigeanais...
C'était un syndicat intercommunal.
Voilà, qui était un syndicat qui a été créé il y a une cinquantaine d'années. Les relations ont été conflictuelles entre les Sigeanais inondés et le syndicat, entre la réserve africaine et le syndicat, entre nous-mêmes, les élus fraîchement nommés et le syndicat.
Oui, une réserve africaine qui avait menacé de déménager à l'époque même.
Voilà. En 2014, la réserve africaine était relativement isolée en termes de relations. Et suite à l'inondation de 2014, donc monsieur Boisard, donc qui était le propriétaire, avait annoncé que c'était la crue de trop, hein, c'était la goutte qui avait fait déborder le vase, et il souhaitait partir de Sigean. Les relations que nous avons réussi à nouer, d'abord entre la commune et la réserve africaine, et ensuite entre les pouvoirs publics, le préfet, les services de l'État et la réserve africaine, ont fait que les choses se sont assouplies. En fait, depuis 2014, il y a une grande concertation qui a été mise en place, notamment suite à l'audit qui a été diligenté par le ministère de l'Environnement, qui a donné un certain nombre de points à conduire, et notamment un des premiers points était la concertation entre toutes les personnes ou tous les organismes touchés par les inondations et les services de l'État. Donc il y a notamment une commission BER qui a été mise en place que je préside depuis quelque temps déjà, au-delà du syndicat de la Bère et du Rieux. Il y a un comité de pilotage qui a été mis en place au niveau préfectoral avec un suivi régulier des préconisations. Et donc la réserve africaine est restée sur place. Par contre, cet audit disait que la digue en 2014 avait été refaite selon les raisons que je vous ai exposées, soit, mais que cela n'exonérait pas le syndicat de la Bère et du Rieux de mener une étude pour étudier l'opportunité de rehausse d'une digue.
Donc, alors, où en est-on aujourd'hui?
Alors, pour faire simple, la digue aujourd'hui protège d'une crue ventennale, c'est-à-dire pour être clair, pour les auditeurs, pour tout le monde, une crue ventennale, c'est une crue qui a une chance d'arriver une fois toutes les 20 ans. Voilà, tous les 20 ans. Sauf qu'on a vu qu'elle pouvait arriver plus rapidement que 20 ans. L'étude va porter sur une digue 5 millénale, c'est-à-dire qui arriverait une fois tous les 5000 ans. Ce ne sont que des statistiques.
Alors là, pour une fois, les politiques voient loin.
Ce ne sont que des statistiques. Alors, par contre, la démarche est très très compliquée. Elle supposait d'abord des délibérations. Elle supposait un certain nombre d'actions. Et dès l'année dernière, bon, voyant que rien n'avait avancé, j'avais demandé au syndicat de la Bère et du Rieux, donc, de de délibérer sur cette étude, hein, qu'il fallait absolument faire. Je ne sais pas ce que dira l'étude, hein, mais l'étude doit travailler sur l'opportunité de rehausser la digue ou pas. Parce qu'évidemment, si on rehausse la digue, il y aura des conséquences en amont, c'est Portel des Corbières, et à l'aval, le hameau de Villefalse, le hameau du lac et la réserve. C'est-à-dire qu'une rehausse de digue ne pourra pas se faire sans mesure compensatoire pour l'amont et pour l'aval. Donc, là, il fallait absolument, du moment que nous rehaussons la digue, surtout pour une digue semi-millénale, il fallait l'inscrire dans un papy. Bon, le papy 3, ce n'est pas encore. Hein. Donc nous sommes en plein dans le papy 2. Les papys sont successifs et il fallait l'inscrire par le biais d'un avenant. Donc il y a toute une démarche qui est quand même
On voit à quel point c'est compliqué. Voilà. Et donc, quelles sont les chances d'aboutissement du rehaussement de
alors, cette là, aujourd'hui nous en sommes au moment de la signature de l'avenant. Ce qui est important, c'est ce qui va permettre de lancer l'étude et de demander le financement de l'étude. Parce que ce sont des études qui coûtent relativement cher et qui peuvent être... tous les travaux d'investissement du syndicat peuvent être subventionnés à 80%. Donc c'est important. Il ne reste que 20% à régler par le
Alors, études, financement et travaux, ça peut prendre combien de temps
D'abord l'étude. C'est l'étude qui va dire s'il est opportun de rehausser ou pas. J'espère et je fais tout pour que cela se fasse, hein, que l'étude démarrera avant la fin 2018. Donc je pense que ce ne sera pas une étude qui... s'agissant d'une étude d'opportunité, elle ne durera pas très longtemps. Et c'est l'étude qui va nous dire à ce moment-là s'il est opportun de rehausser ou pas. S'il est opportun de rehausser, donc il faudra reprendre une deuxième étude, évidemment, pour la construction de la digue. Et là, ça va s'accompagner très certainement d'études environnementales.
Donc c'est quand même plusieurs années.
Voilà.
Il faut que les gens le sachent, plusieurs années.
Voilà. Et c'est un peu la contradiction qu'il peut y avoir dans les relations avec les sinistrés. C'est que, et je les comprends, et moi aussi je suis comme ça, parce que lorsqu'il y a une inondation ou un risque d'inondation, c'est un traumatisme pour l'élu. Donc le maire est quand même, cela relève de la responsabilité du maire, c'est un traumatisme pour tout le monde. Tout le monde espère qu'avant Noël, tout sera fait.
Voilà. Mais ça n'en prend pas le chemin du tout.
Même avec notre meilleure volonté et même avec tout le...
Et bien que les GEMAPI soient aujourd'hui bien déterminés quant aux responsabilités,
absolument,
c'est quand même un phénomène de plusieurs années.
Absolument.
Entre-temps, dont on sait qu'il faudra pas forcément attendre 20 ans pour la prochaine crue qui fera des dégâts à Portel et notamment à Sigean. Est-ce que c'est la responsabilité des GEMAPI, par exemple, d'encourager à la formation de brigades particulières au niveau de la protection civile ou des pompiers, adaptées à ce genre de problème?
Oui, la gestion d'une inondation peut être confortée par la création d'une réserve de sécurité. Donc,
spécifique.
Elle peut servir pour autre chose aussi.
Oui,
Il y a des inondations, mais nous sommes soumis aussi aux incendies de forêt, comme en septembre l'année dernière sur le Rieu. Donc, nous allons, dans le cadre du plan communal de sauvegarde, nous allons mettre cette réserve de sécurité justement en place pour aider à la gestion le jour où survient une crue.
Et alors, bien entendu, une telle responsabilité, et on a parlé de financement, mais ça a besoin d'être financer. Alors, une taxe a été instaurée à l'agglomération pour financer ce GEMAPI.
Oui, tout à fait.
Ou cette GEMAPI, pardon.
Oui. la gestion des inondations, de toute façon, coûte. Je vais vous donner...
Elle coûtait déjà auparavant.
Elle coûtait déjà. La taxe aura... Alors, c'est un impôt supplémentaire, certes, mais elle aura... cette taxe est l'assurance de la sécurité de chacun, mais elle va donner de la lisibilité, justement, pour que tout le monde se rende compte quel est le coût.
Oui, le coût total, global.
Voilà, quel est le coût. Vous savez qu'un certain nombre de digues ont été faites. Si on prend la digue de Sigean, par exemple, pour la refaire à l'identique, c'est 1 300 000 euros.
Déjà, oui.
Nous allons inaugurer...
Avec le résultat que l'on sait.
Voilà. Nous allons inaugurer, dans les jours à venir, les digues de Salelles. C'est 4 4 millions d'euros. À Cuxac, les digues qui ont été faites dans les années 2014, c'est 24 millions d'euros. Donc ce sont des coûts qui sont quand même relativement importants. Donc le législateur a prévu cette taxe. Alors il faut quand même savoir que dans l'Aude, suite au cru de 1999, un certain nombre de choses avaient été mises en place. Et tous les Audois payaient. déjà au titre des inondations. Alors certains payaient, comme dans ma commune, directement sur leur feuille d'impôt, il y avait déjà une colonne syndicat, d'autres payaient par le biais du budget communal. Bon, donc là, c'était transparent, ils ne le voyaient pas, mais une partie de leurs impôts communaux servait à subventionner le syndicat de bassin. Voilà.
Donc aujourd'hui, c'est clair, c'est l'agglomération du Grand Narbonne.
Aujourd'hui, c'est l'agglomération du Grand Narbonne qui vote le montant, donc en euros, qui doit être collecté pour financer les syndicats qui relèvent de l'agglo de Narbonne.
Et c'est un budget de quel ordre de grandeur?
Alors, il a été voté cette année une somme de 1 900 000 euros.
Ce qui semble peu par rapport au prix des travaux que vous évoquez, Michel Jarre.
Voilà. Parce que les travaux, je vous le disais tout à l'heure, sont subventionnés. Donc il n'y a qu'une partie de l'investissement à régler. Par contre, il y a le fonctionnement des syndicats à payer. Alors grosso modo, ce montant correspond à ce que coûtaient les syndicats les années précédentes. Sachant que les années précédentes, le contribuable, directement par sa taxe ou par le budget communal, en réglait la moitié. Et l'autre moitié était apportée par le conseil départemental de l'Aude et de l'Hérault au SMDA, donc le syndicat qui concerne plus précisément le Narbonnais.
Ce qui ne sera plus le cas puisque le département ne veut plus s'immiscer.
Donc les deux départements s'étant retirés, aujourd'hui il faut collecter la somme totale. Bon, si on le compare aux impôts qui sont prélevés au niveau de l'agglo, entre l'agglo et les communes, bon, de mémoire on est du côté de 117 millions d'euros. Bon, voilà, vous avez une échelle de grandeur.
Ah oui, quand même, oui. Donc c'est tout à fait autre chose.
Et ce million d'euros là, ce 1,9 million d'euros, pardon, va être converti par les services fiscaux en taux.
Oui, en taux d'imposition. Donc, et alors, parmi les responsabilités, on a beaucoup évoqué les risques d'inondation fluviale, Michel Jam. C'est normal, vous avez la Bère et d'autres fleuves qui sont concernés. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la submersion marine, c'est-à-dire les coups de mer, par exemple.
Oui.
Et alors, il y a un problème qui est récurrent dans l'agglo, c'est celui notamment de Fleury et de l'embouchure de l'Aude. À chaque fois qu'il y a une crue, sans forcément de grosses inondations, il y a tout un tas de, excusez-moi l'expression, de saloperies qui se déversent sur la commune de Fleury, ce qui fait rouspéter le maire Guissier.
Sauf que le cas que vous évoquez n'est pas une inondation marine. Ce sont les embâcles qui descendent le long de l'Aude.
Oui.
Là, par contre, on peut se poser une question, et je sais que le législateur se la pose actuellement, cette question. C'est de savoir qui doit payer. Le système qui est mis en place est un système de solidarité. Donc tout le monde paye, même quand on n'est pas directement concerné par des inondations. Par contre, on peut se poser la question de savoir s'il est normal que l'agglo de Narbonne supporte seul le coût des embâcles qui arrivent à Fleury, par exemple, sachant qu'ils arrivent de l'embouchure de l'Aude.
Oui.
C'est
là où la participation départementale se justifierait.
Voilà. Est-ce que les fleuves comme l'Aude ne doivent pas relever d'une compétence plus large? Autant la Bère, on est sur un bassin plus réduit. Autant pour un fleuve, on peut se poser la question. Et on peut se poser la question pour les submersions marines. Parce que c'est quelque chose qui, dans la conscience locale, est moins présente que l'inondation par un fleuve ou par une rivière, mais qui n'en est pas moins importante. Et là également, il s'agit de protéger les populations et les économies. Et l'inondation marine peut être due à une tempête, certes, mais également, on peut parler de l'érosion du trait de côte. Et là, c'est le vent, c'est la houle ou c'est tout simplement l'homme. Voilà.
Oui, effectivement, ça c'est encore un autre problème, et il semble que le trait de côte chez nous en Languedoc est en train de reculer.
Tout à fait. Le trait de côte, c'est une compétence État, donc là on est effectivement sur le domaine de l'État.
Voilà, donc ça va pas être simple,
et
encore une fois.
Voilà, et là également, on peut se demander, là, on peut parler de solidarité, parce que si on parle de mer, on parle de plage. Bon, les plages de la Narbonnaise ne sont pas utilisées que par les Narbonnais.
Bien entendu.
Donc voilà, est-ce que... Par contre, le financement en reviendra essentiellement à l'agglo.
Oui, donc, petite remarque pour montrer. Il y a un impôt additionnel qui est payé par ceux qui ne résident pas dans les stations du littoral. C'est la taxe de séjour. Sauf que les Narbonne, le catégorie 1, ayant conservé la compétence et donc la taxe de séjour.
Et on est encore dans des particularismes insolubles.
Le Toulousain qui vient à la plage chaque dimanche, celui ne perd rien.
Voilà, mais écoutez, merci en tout cas Michel Jamme d'avoir fait le tour de cette Gemapi. Oh, et on s'aperçoit que même si ça va résoudre certains problèmes, d'autres sont encore loin d'être pris en compte, comme celui que vient d'évoquer Michel Santos.
C'est d'une complexité remarquable et c'est évolutif.
Oui, et c'est évolutif.
Ce que l'on sait aujourd'hui n'est pas la vérité demain.
De surcroît. Bon, et ça sera pas la vérité, excusez du peu, dans 5000 ans. Merci en tout cas à Michel Jamme. Notre prochain invité viendra d'un peu plus au sud que vous encore, puisqu'il viendra de Perpignan. C'est François Lieta, qui est le président des Républicains dans les Pyrénées-Orientales, où nous parlerons notamment des municipales de Perpignan, qui se profilent avec des ambitions déjà clairement établies. Merci de nous avoir écoutés, et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.